Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Cette parole de la prophétie d'Ésaïe exprime toute la vanité des pensées et des actions des hommes lorsqu'elles ne cherchent pas à s'harmoniser avec la volonté du Créateur de l'univers. Toute l'épopée humaine, telle qu'elle nous est rapportée dans les Écritures, semble être caractérisée par des échecs répétés parce que les hommes ont oublié cette vérité. Mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas vos pensées. C'est toute l'histoire des hommes depuis la tour de Babel jusqu'à notre temps, en passant par la crucifixion du Messie. Or, quel a été et quel est encore le péché des hommes? Pourquoi leur attitude est-elle considérée comme folie? C'est en répondant à ces questions qu'on se rend compte que l'histoire se répète. Ce que les hommes ont été, ils le sont encore. Aujourd'hui, ils construisent encore leur tour de Babel. Avec la somme de connaissances qu'ils amassent, avec tout leur savoir, ils pensent avoir dépassé la foi en un Dieu créateur qu'ils jugent rudimentaire. Aujourd'hui encore, ils rendent un culte au veau d'or du matérialisme, en ce qu'ils sont désespérément attachés à cette terre et à ses richesses. Ils ne croient qu'en ce qu'ils peuvent voir et toucher. Ils n'ont de confiance qu'en ce qui rapporte de l'argent. Ils n'ont de foi qu'en ce qui contribue à leur confort matériel. Aujourd'hui encore, ils crucifient le Messie parce qu'ils refusent de le regarder en face, tel qu'il vit et tel qu'il parle dans les Écritures. Et parce qu'ils refusent de se déclarer pour lui, ils se tournent ainsi contre lui, en le couronnant de leur indifférence et en lui enfonçant les clous de leur égoïsme. Le jugement de Dieu est déjà prononcé contre cette folie des hommes qui cherchent à croire que Dieu n'existe pas et qui agissent comme s'ils en étaient persuadés. Car leurs discours ne sont que des balbutiements inarticulés. Leur marche dans la vie est un éternel trébuchement grotesque, et même leur science est un égarement et une confusion si elle contribue à faire de Dieu un exilé, un mythe, une légende et une fable. Leur tentative de définir la vie et la mort les conduit à l'absurde, au pessimisme et au désespoir. Les Écritures qualifient d'insensé celui qui s'égare ainsi par orgueil, par ambition ou par esprit de révolte. Nous rencontrons ce mot une centaine de fois dans le texte biblique, dans des affirmations et des sentences graves, souvent prononcées en des circonstances tragiques. Ainsi, l'insensé a dit dans son cœur « Il n'y a point de Dieu ». L'insensé ne prend point garde aux pensées de Dieu. Les insensés se font un jeu du péché. L'insensé est semblable à un chien qui retourne à ce qu'il a vomi. La voix de l'insensé est droite à ses yeux. Insensé est celui qui a confiance en son propre cœur. Ce mot décrit bien l'état de celui qui a perdu le sens, c'est-à-dire l'orientation des choses, et même leur signification. Nous assistons réellement avec ce mot à un égarement tragique causé par une mauvaise définition des mots clés de notre existence, tels que la vie, la mort, le salut, le bien, le mal et même Dieu. Les hommes ont donné à ces mots leur propre définition, issue de leur raisonnement et de leur intelligence, et leur vie s'est plus ou moins modelée d'après ces définitions. Ainsi, celui pour qui faire le bien consiste à toujours agir selon sa conscience, agira selon sa conscience, même si elle lui dicte parfois des attitudes que l'Évangile désapprouve. De même, celui pour qui la mort est la fin de tout ne se préoccupera pas de ce que les chrétiens appellent la vie à venir. Il vivra au contraire dans une sorte de frénésie désespérée pour profiter de tous les moments de son existence. Ou bien, il traînera sa vie désespérante en s'efforçant de ne pas penser à l'ultime et inéluctable étape. Il y a division parmi les hommes quant au sens de notre existence. C'est là d'ailleurs un sujet idéal pour les philosophes. Cependant, par le moyen de ses messagers, Dieu nous a parlé dans les Saintes Écritures. C'est là qu'il répond aux graves questions que pose notre vie. Quelle est l'origine de l'homme? Quelle est sa raison d'être? Quelle est sa destinée? Mais nous nous sommes détournés de cette révélation de Dieu. Aux voix de Dieu, à ses commandements et à ses pensées, nous avons préféré notre raisonnement et notre science. Il y a 2500 ans, le prophète Jérémie a prononcé un jugement qui demeure vrai. Ils agissent comme des insensés, parce qu'ils ne connaissent pas la voie de l'Éternel, la loi de leur Dieu. Parce qu'ils renient l'Éternel en disant « Il n'existe pas ». Parce qu'ils ne prennent pas garde à ses avertissements. Parce qu'ils ne sont point attentifs à ses paroles et qu'ils méprisent sa loi. Qui oserait dire que notre monde moderne ne mérite pas ce jugement? Ils agissent comme des insensés, parce qu'ils ne connaissent pas la voie de l'Éternel. Les Écritures nous enseignent effectivement à regarder la vie avec les yeux de Dieu. Tandis que les hommes envisagent la mort comme la fin de tout, le Christ, messager de Dieu, nous apprend qu'elle est au contraire le commencement, une étape nécessaire pour accéder à l'épanouissement dans une nouvelle vie. La vie terrestre est donc une préparation éclairée et guidée par la parole de Dieu, et non pas une fin en soi. Elle n'est vraiment la vie que dans la mesure où elle signifie union avec Dieu. Ceci a tellement été senti par un penseur contemporain qu'il a pu dire dans un article récent que la mort n'existe pas. Le Christ nous enseigne aussi ce qui peut paraître un défi à la raison, à trouver la joie et la paix dans l'épreuve et la souffrance, même injustement subies, à cause de la foi. Pour sauver les hommes de leurs péchés, Dieu a choisi ce que l'homme n'aurait jamais imaginé. La croix, objet d'ignominie et de répulsion, scandale pour les Juifs et folie pour les Grecs. Il semble que toute la religion chrétienne soit fondée sur une énumération de paradoxes déroutants. « Jamais on ne nous persuadera, disait avec flamme Chateaubriand, qu'une religion fondée sur une pareille base soit une religion humaine. Celui qui a pu faire adorer une croix, celui qui a offert pour objet de culte aux hommes l'humanité souffrante, la vertu persécutée, celui-là, nous le jurons, ne saurait être qu'un Dieu. Tout réside en ce que Dieu regarde et nous enseigne à regarder avec lui et comme lui, non pas aux apparences, mais au cœur, non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, non pas aux choses passagères, mais à celles qui sont éternelles. L'apôtre Paul exprime merveilleusement, par l'exemple de sa propre vie, le contraste que présentent les apparences de son ministère avec la réalité des choses. On nous regarde comme des imposteurs, dit-il, quoique véridiques, comme inconnus, quoique bien connus, comme mourants, et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Nous voyons qu'il est constamment nécessaire de reviser notre conception de la vie, en maintenant notre jugement, notre volonté et même notre conscience sous le joug de Dieu. Cela veut dire ne pas faire comme tout le monde, ne pas être comme tout le monde, ne pas réagir forcément comme tout le monde. À cet égard, un penseur contemporain, Suzanne Dare, a très justement remarqué que l'homme est emporté par le souffle qui caractérise son époque. L'influence des lieux, des latitudes, des civilisations s'exerce inévitablement sur la majorité des individus, qui sont semblables à cet amas de paille qui, de loin, apparaît comme un objet imposant par ses dimensions, mais qui n'a nulle consistance et qui s'éparpille au premier contact avec le vent. Résister au souffle ambiant de notre temps, c'est accepter de faire figure de déséquilibré. Ne pas se laisser emporter, ne pas faire comme les autres, oser rester sur place quand tout autour de vous, des multitudes avancent tête baissée dans la même direction, cela exige autre chose qu'une superficielle apparence de vie. De profondes racines, de solides fondements sont indispensables. Ne vous conformez pas au siècle présent, disait déjà l'apôtre Paul, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Puisse la recherche de la volonté de Dieu constituer notre préoccupation majeure pour qu'elle devienne une lampe à nos pieds et une lumière sur le sentier complexe de notre vie.